Chapitre 6, où le père Sarriette retrouve ses trésors. Le lendemain matin, M. Sarriette entra sans frapper dans le cabinet de M. René d'Esparvieux. Il levait les bras au ciel. Ses rares cheveux se dressaient sur sa tête. Ses yeux étaient grands d'épouvante. Il révéla en balbutiant le désastre. Un très vieux manuscrit de Flavius Joseph, 60 volumes de tout format, un inestimable joyau, le Lucrèce aux armes de Philippe de Vendôme, grand prieur de France, avec des notes de la main de Voltaire, un manuscrit de Richard Simon et la correspondance de Gassendi avec Gabriel Naudet, comprenant 238 lettres inédites, avait disparu. Cette fois, le propriétaire de la bibliothèque s'alarma. En hâte, il monta à la salle des philosophes et des sphères et là, constata de ses yeux l'étendue du dommage. Sur maint rayon, on voyait des trous béants. Il chercha au hasard, ouvrit des placards, découvrit des balais, des torchons, des bombes contre l'incendie, donna des coups de pelle dans le feu de coque, secoua la belle redingote de M. Sarriette, pendue dans le lavabo, et, découragé, contempla le vide laissé par les portefeuilles de Gassendi. Tout le monde savant réclamait à grands cris depuis un demi-siècle la publication de cette correspondance. M. René d'Esparvieux n'avait pas répondu à ce vœu universel, ne consentant ni à assumer une si lourde tâche, ni à s'en décharger sur d'autres. Ayant constaté dans ses lettres beaucoup de hardiesse, de pensée et nombre d'endroits plus libertins que ne le pouvait souffrir la piété du XXe siècle, il préférait que ces pages demeurassent inédites. Mais il sentait qu'il était comptable de ce dépôt à son pays et à la civilisation universelle. « Comment avez-vous pu vous laisser dérober à pareil trésor ? » demanda-t-il sévèrement à M. Sarriette. « Comment j'ai pu me laisser dérober à pareil trésor ? » répondit le malheureux bibliothécaire. « Monsieur, si l'on m'ouvrait la poitrine, on trouverait cette question gravée dans mon cœur. » Sans s'émouvoir de cette forte parole, M. d'Esparvieux reprit avec une colère contenue. « Et vous ne découvrez aucun indice qui vous mette sur la trace du voleur, Monsieur Sarriette ? Vous n'avez nul soupçon, pas la moindre idée de la manière dont les choses se sont passées ? Vous n'avez rien vu, rien entendu, rien observé, rien appris ? Convenez que cela est inconcevable. Songez, Monsieur Sarriette, songez aux conséquences possibles de ce vol inouï commis sous vos yeux. Un document inestimable pour l'histoire de l'esprit humain disparaît. Qui l'a volé ? Pourquoi l'a-t-on volé ? Au profit de qui ? Ceux qui s'en sont emparés savent bien, sans doute, qu'ils ne peuvent s'en défaire en France. Ils iront le vendre en Amérique, en Allemagne. L'Allemagne est avide de tels monuments littéraires. Si la correspondance de Gassendi avec Gabriel Naudet passe à Berlin, si des savants allemands en font la publication, quel désastre, quel scandale, dirais-je même. Monsieur Sarriette, vous n'y avez pas songé ? Sous le coup d'un blâme d'autant plus cruel qu'il se le faisait à lui-même, M. Sarriette demeurait stupide et gardait le silence. Et M. d'Esparvieux multipliait les reproches acerbes. « Et vous ne tentez rien, vous n'imaginez rien pour retrouver ces richesses inestimables. Faites des recherches, remuez-vous, Monsieur Sarriette, ingéniez-vous, la chose en vaut la peine. » Et M. d'Esparvieux jeta en sortant un regard glacial sur son bibliothécaire. M. Sarriette chercha les livres et les manuscrits perdus dans tous les endroits où il les avait déjà cherchés 100 fois, et où il était impossible qu'ils fussent, et jusque dans le seau à charbon, et sous le rond de cuir de son fauteuil, et descendit machinalement au coup de midi. Il rencontra au pied de l'escalier son ancien élève Maurice, avec lequel il échangea un salut. Mais il ne voyait les hommes et les choses qu'à travers un nuage. Le désolé conservateur était déjà dans le vestiaire quand Maurice le rappela. « Monsieur Sarriette, pendant que j'y pense, faites donc reprendre les bouquins qu'on a fourrés dans mon pavillon. »« Quel bouquin, Maurice ? Je ne saurais vous dire, Monsieur Sarriette. » Mais il y en a de vermoulus en hébreu avec tout un fatras de vieux papiers. Ils m'encombrent, on ne peut plus se retourner dans la pièce d'entrée. Qui vous les a portés ? Je n'en sais fichtre rien. » Et le jeune homme se dirigea lestement vers la salle à manger, le déjeuner étant déjà annoncé depuis un moment. Monsieur Sarriette courut au pavillon, Maurice avait dit vrai. Une centaine de volumes étaient là, sur les tables, sur les chaises, sur le plancher. À cette vue, partagé entre la joie et la peur, plein de surprise et de trouble, heureux de retrouver son trésor perdu et craignant de le perdre encore, abîmé d'étonnement, l'homme des livres, tour à tour, gazouillé comme un nourrisson et poussé des cris rauques à la manière des fous. Il reconnaissait ses bibles hébraïques, ses vieux talmuds, son très ancien manuscrit de Flavius Joseph, ses lettres de Gassendi à Gabriel Naudet et son plus riche joyau, le Lucrèce aux armes du grand prieur de France avec les notes de la main de Voltaire. Il riait, il pleurait, il embrassait les maroquins, les veaux, les parchemins, les vélins, les haies de bois garnis de clous. À mesure qu'Hippolyte, le valet de chambre, rapportait une brassée à la bibliothèque, M. Sarriette, d'une main émue, les reposait pieusement à leur place.